Bonjour Guillaume, il faudrait qu'on parle des paraboles. Parce
Bonjour
que des
Pierre.
paraboles, c'est quand même essentiel. Est-ce que c'est une fable comme celle de Ésope ou de La Fontaine? Non, parce que je crois que le récit d'Ésope et de La Fontaine a pour but de donner une maxime, une morale générale ou un comportement social à avoir. Et en se servant d'une histoire facile et qui est compréhensible pour tous, c'est très simple. L'argent ne fait pas le bonheur. Il suffit de penser aux savetiers et aux financiers. L'importance des relations sociales joue beaucoup. C'est l'agneau et le loup. Là, je crois que c'est clair, net et précis. On comprend. Alors, la parabole, si ce n'est pas une fable, c'est peut-être une allégorie. Alors, c'est une expression d'une idée à l'aide de symboles et de métaphores. C'est là déjà un peu plus compliqué, peut-être. C'est en tout cas, peut-être, moi, je trouve qu'un récit qui emprunte des images de la vie quotidienne. Par exemple, on voit qu'on est tout de suite avec Jésus dans un monde agricole. Hein, il ne parle pas de fumée d'usine, mais des champs, de vignes, d'oliviers, de vendanges. Et donc, c'est une vie qui comporte un enseignement religieux. Vous pensez que c'est ça la définition de la parabole?
Je pense que c'est fondamentalement ça. Parabole, ça vient du grec para baleine, baléo, qui veut dire lancer à côté. Donc, vous avez parlé d'allégorie. C'est ça, c'est une image qui est lancée à côté de ce qu'on veut dire pour que ce qu'on veut dire puisse avoir plus de relief.
Voilà, oui, pour illustrer et faire mieux comprendre.
Voilà, donc la parabole, c'est soit une allégorie ou une image. Ou une fable, quelque chose qui n'existe pas, vous avez raison, hein. Jésus a parlé de choses qui n'existaient pas, dans un sens de parabole. Je pense que quand Jésus parle de la parabole du bon grain et de l'ivraie, ça n'existe pas un champ où quelqu'un plante de l'ivraie avec du bon grain, avec le blé.
C'est vrai que tout n'est pas rationnel quand même
Hein?
dans ce que dit Jésus au niveau des paraboles. Il ne faut pas chercher une logique
Implacable.
implacable, pardon.
Voilà.
Effectivement, mais dans l'ensemble, on comprend. C'est
Alors,
essentiel.
il faut peut-être en introduction parler de la raison des paraboles.
Oui.
Et on va en tirer deux choses qui nous permettront peut-être d'en garder surtout ce qui est valable pour nous
Bien sûr.
chrétiens, bien sûr,
Mais oui,
aujourd'hui. Cette raison se trouve en Matthieu 13. On va le lire tout simplement. Les disciples en Matthieu 13, alors que Jésus parle en parabole, ils viennent dire à Jésus au verset 10, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Et donc lui, il répond et il dit, mais c'est parce que à vous, mes disciples, je vous donne de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, c'est-à-dire aux chefs des Juifs, aux pharisiens, tous ces gens responsables, je ne veux pas leur dire directement parce que ils sont sourds, ils sont aveugles, ils ne veulent pas entendre. Et du coup, je parle dans un langage qu'ils ne peuvent pas comprendre, sauf si vraiment ils le voulaient. Et là, il cite ce passage d'Ésaïe, au chapitre 6, versets 9 et 10, où, parce que Dieu voit que le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils ne veulent pas entendre, alors il ne leur parle pas directement. Et on va dire que nous n'allons pas parler de ce côté-là de l'enseignement de Jésus, hein, qui est l'enseignement christique, hein, d'être roi sur son peuple, nous allons plutôt parler de l'enseignement des paraboles et qu'est-ce que nous, chrétiens, pouvons faire de ces paraboles qui sont riches et qui nous poussent finalement à vivre une vie chrétienne belle, intense, etc.
Alors, mais avant d'y arriver, est-ce que j'aimerais bien savoir si la tradition biblique de la parabole existait dans l'Ancien Testament? Oui, ça existait déjà, des paraboles. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans les Juges, on nous parle des arbres qui demandent un roi. C'est une parabole,
C'est ça,
hein?
c'est ça. C'est-à-dire que ça s'appelait pas comme ça parce que parabole est un mot grec.
Oui,
Hein?
d'accord.
Mais
La notion existait,
la notion
effectivement.
existait. Hein?
Oui,
Je
oui.
pense aussi, par exemple, au langage de Dieu par Ézéchiel qui lui dit fais cuire tes aliments sur des excréments. Au langage de Dieu à Osée qui lui dit épouse une prostituée. Ce sont des paraboles, c'est-à-dire ce sont des images qui sont données dans l'Ancien Testament. au peuple d'Israël pour que le peuple comprenne quelque chose.
Ou encore Nathan qui explique à David qu'il y avait quelqu'un qui avait pris la brebis d'un pauvre.
Absolument.
Pour lui faire comprendre que lui aussi, il n'a pas pris une brebis, mais il a pris une épouse de quelqu'un d'autre. Donc ça a toujours existé. Alors, est-ce que c'est un fait peut-être méditerranéen? Parce qu'en fait, moi je pense que on illustre par le langage ce qu'on ne peut pas expliquer par un dessin.
C'est vrai, je suis d'accord.
Hein? Si tu veux faire comprendre, tu ne peux pas l'expliquer, fais un dessin, je te dis. Mais bon, il faut avoir l'autorisation de faire un dessin. Mais chez les Juifs, on ne peut pas représenter Dieu. Donc, ils ont développé peut-être justement tout ce qui est verbal. Et c'est pour ça que les images, les allégories sont nombreuses et nous permettent. Et est-ce que les songes peuvent être considérés aussi comme des paraboles?
Ce n'est pas ce que dit Ecclésiaste 5, verset 3, qui dit que le songe vient de beaucoup d'activités. Il me semble, et ça a été beaucoup creusé avec Freud à partir de 1900, hein, dans son livre sur les rêves, il me semble que le songe, c'est le langage de quelqu'un qui est endormi et qui exprime fortement et par des codes ce que chacun devrait comprendre. Mais la parabole, c'est un artifice de langage éveillé, alors que le songe serait plutôt un artifice de langage endormi.
Oui, oui.
Hein, voilà. Y a une certaine similitude, mais pour moi, dans la parabole, on va faire de manière intelligente, on va utiliser de manière intelligente quelque chose pour faire comprendre à quelqu'un, alors que dans le songe, on va plutôt utiliser de manière intelligente quelque chose pour cacher. Parce que si Freud et ceux qui sont venus après disent que dans le songe, on code, c'est-à-dire on utilise justement un langage parabolique pour se protéger de la réalité. Par exemple, quand on souffre de quelqu'un, alors dans le songe, on ne va pas le voir en vrai, on va le voir sous le personnage de quelqu'un d'autre.
Mm.
Mais on fait ça pour cacher, on ne fait pas ça au contraire pour imaginer.
Oui, alors donc, on a ça de côté, effectivement. Alors par contre, dans les évangiles, bien Jésus use beaucoup de paraboles, parce que effectivement, c'est cité un certain nombre de fois, par Matthieu 17 fois, par Marc 13 et 18 fois par Luc. Alors, avant de commencer, évidemment, réellement, là, ce que vous aviez prévu, les paraboles pour les chrétiens, il faut quand même, évidemment, peut-être définir quelques petites choses comme ça. La parabole, quand même, je pense, et vous allez me dire, vous êtes d'accord, est un choix.
Un choix littéraire.
Voilà. Oui, c'est un choix littéraire, c'est très beau, c'est même parfois poétique, mais aussi qui va vous amener à accepter ou pas ce qui a été dit. Si vous l'écoutez et si vous voulez, si vous faites quand même un effort. Donc un tri va se faire entre ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas. Mais ce qui me gêne, c'est que quand on a lu, et vous l'avez lu là, tout à l'heure, c'est que même les disciples ne comprenaient pas. Mais je pense que c'est invité quand même à faire un choix.
La parabole, c'est quelque chose qui oblige celui qui écoute à bien réfléchir sur le sens de ce qui est dit. Ça demande, si je dis « va me chercher du pain », on est dans le langage clair. Si je dis « un homme était dans un pays étranger et était affamé », il faut que la personne se dise « tiens, de qui parle-t-il ? »
Oui.
« Ah, il parle de lui. Ah, donc il a faim. » Vous voyez ? Donc la parabole demande une attention et une réflexion plus importante.
C'est ça. Il y a quand même une écoute particulière pour bien saisir.
Oui. Hein.
Et puis, dernière chose, disons, c'est qu'en fait, il y a un vocabulaire particulier et qui revient un peu à peu près dans toutes choses. Par exemple, le roi ou le maître de la maison, ça va être Dieu. Les vendanges ou la moisson, ça va être le jugement. Le fils, ça va être le Christ. Les serviteurs qui sont envoyés en mission, ça peut être les disciples. Donc, il y a un vocabulaire qui est commun et qui revient à peu près régulièrement. C'est un vocabulaire des paraboles.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce vocabulaire, me semble-t-il, est toujours compréhensible à ceux à qui s'adresse Jésus. Puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, il s'adresse dans un langage de la campagne, de la pêche,
oui, très simple.
Hein, voilà, très simple.
Effectivement, s'il avait parlé du royaume carrément à la place d'une vigne, par exemple, il y aurait beaucoup qui ne l'auraient pas saisi, effectivement. Donc ça reste concret et avec un langage, et puis ça revient. Donc à la limite, on s'y retrouve. Si on suit Jésus pendant 3 ans et qu'on écoute toutes les paraboles, on va s'y retrouver.
Voilà, on se retrouve parce que le langage est simple. Par contre, c'est clair que Jésus n'a pas voulu parler du royaume, justement parce qu'il voulait le cacher.
Voilà,
Au
oui, bien
contraire,
sûr.
hein, voilà.
Oui. Juste un exemple comme ça.
Oui.
Donc, pour lui, il a quand même un royaume, pardon, il a quand même un domaine nouveau qui lui serait propre. Hein. Ça va être lequel dans cette parabole? Qu'est-ce qu'il veut faire?
Alors Jésus veut nous éveiller, quand nous lisons les évangiles, il veut nous éveiller à un peu toujours les mêmes choses, savoir trouver le Dieu qui sauve, trouver le Dieu qui aime, trouver le Dieu qui est juste, et trouver un comportement personnel qui soit à l'honneur de Dieu, du Dieu qui nous appelle. On trouve toujours un peu ces mêmes choses. Je prends un exemple, peut-être pour l'imager. Quand Jésus parle de la parabole de la vigne dont vous parliez tout à l'heure, il envoie des intendants et pour percevoir l'argent. Et donc, il lapide les intendants ou il les rejette. Et après, il envoie son fils. Et donc, là, il y a donc le propriétaire de la vigne nous parle de Dieu. Les intendants, peuvent nous parler quelque part du langage de notre conscience, par exemple, ou des gens qui nous avertissent. Et puis le Fils nous parle du Seigneur Jésus.
Oui.
Et donc ce que nous faisons, nous, au Fils du propriétaire de la vigne, nous parle de ce que nous avons fait au Seigneur Jésus. Et du coup, ben, par la mort du Fils, il y a un langage qui est adressé à tout le monde. Voilà le sens d'une parabole aujourd'hui qui nous interpelle et qui nous montre que Dieu aime ces gens-là, ils veulent leur parler, et bon, le fils est mort, mais Dieu veut quand même leur parler.
Oui, justement, il veut quand même aussi dire qu'il est le fils envoyé par le Père.
Voilà.
Il insiste aussi, il essaie de le faire comprendre
Oui.
que c'est lui le Messie attendu.
C'est ça.
C'est important. Et puis qu'il a une mission, un destin, et que ce destin va concerner tous les hommes. Il est là pour les sauver, pour les amener à Dieu.
C'est intéressant de voir que les Juifs, même qui croient en Jésus et qui croient en lui comme Christ, ils ne comprennent pas du tout que Jésus va souffrir. Ils pensent que Jésus va régner. Ils pensent que tout va être simplifié. Il est le Fils de Dieu, il fait des miracles. Il l'a montré, il a multiplié les pains, il a guéri, il a rendu la vue, etc. Et puis ils pensent que tout va être très simple. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas bien ces paraboles.
Continue évidemment dans ce qui est peut-être le domaine des paraboles. Et il y a donc, disons, aussi un enseignement qui est propre dans ce langage que va utiliser Jésus, parce qu'il va essayer, disons, de demander une conversion, une ouverture. C'est quand même un des buts des paraboles. Et puis ensuite, il envoie les hommes en mission, ou du moins les disciples. Donc, tous ces points qu'on vient d'énumérer, ça fait peut-être la justification des paraboles.
Prenons un exemple pour étayer ce que vous venez de dire. Dans Luc au chapitre 16, Jésus est avec la foule et avec les chefs et les pharisiens qui sont avares, qui sont cupides. Et il dit une parabole qui parle du monde invisible et du séjour des morts. Et donc il y a cet ensemble de choses qui sont précisées par Jésus, qui sont là pour toucher un public qui a un problème particulier, le problème de l'avarice. Hein, Jésus leur dit, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre, de fin lin, qui faisait joyeuse chair chaque jour, splendidement, et puis le pauvre, le nommé Lazare, etc. Et ces gens-là meurent, et Jésus raconte ce qui s'y passe. Hein? Jésus ne dit pas que ce soit la vérité, Jésus raconte une
Une
histoire, en fait.
histoire,
Hein?
oui.
Voilà. Et là, il y a une parabole. Alors, ces gens qui sont ces gens représentés par cet homme riche qui se vêt de pourpre, de fin lin, et qui fait joyeuse chair chaque jour splendidement? Eh bien, ce sont les chefs du peuple. Ce sont les pharisiens. Qui sont les gens qui sont représentés par Lazare? Ce sont les pauvres du peuple, justement. Et Jésus leur dit, mais cet homme riche, eh bien, il est mort, en fait. Et après, dans le séjour des morts, alors c'est cet homme riche qui a les souffrances. Et donc il leur dit ça pour les instruire par rapport à la cupidité, mais aussi par rapport à l'avenir, hein, par rapport à leur devenir, qu'est-ce qu'il va être devenir d'eux, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Donc là, l'enseignement des paraboles est un enseignement qui est direct et qui doit interpeller les gens du peuple, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, mais qui nous interpelle aussi. Finalement, qu'est-ce que nous allons faire, nous, aujourd'hui, de notre argent? Hein, comment mettons-nous notre argent à disposition de Dieu? Ce qui ne veut pas dire qu'on le donne à tout le monde, ce qui ne veut pas dire qu'on le dépense forcément à tort et à travers. Ça veut peut-être simplement dire qu'on a une provision d'argent, mais qu'on met à disposition de Dieu de la manière la plus simple qui soit.
Oui, alors là, quand même, je crois qu'il faut préciser, mais je pense que nos auditeurs l'auront très bien compris. Les paraboles, ça n'a pas existé, ça n'a pas servi uniquement, disons, au temps de Jésus, mais elles sont d'actualité.
Absolument.
C'est la base de notre vie chrétienne.
Voilà.
Et bon, peut-être de le redire, hein.
Je pense à une autre parabole qui est aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, où Jésus, tout à coup, dit une parabole aux conviés, observant comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu'un plus honorable que toi ne soit convié par lui. Et que celui qui vous a convié, toi et lui, ne vienne et ne te dise, fais place à celui-ci.
La honte.
La honte.
Mais
Donc voilà
il avait
des.
dû le voir.
Et oui, c'est ça. Hein, ouais. Et voilà donc des paraboles que nous pouvons, nous, comprendre de manière la plus simple qui soit, alors que toutes ne sont pas aussi compréhensibles que
Ah,
celles-là.
mais bien sûr, oui, effectivement, c'est vrai. Et alors, disons, on pourrait savoir que c'est une parabole que l'on trouve dans ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, celle de Marc, de Luc et de Matthieu. On les retrouve parfois communes, pas exactement sous le même aspect, mais ça se comprend, ce ne sont pas les mêmes rédacteurs. Disons, il y en a beaucoup plus chez, disons, chez Luc, chez Matthieu, et Marc en donne moins, beaucoup moins. Pourquoi, comment il fait le choix, ça, on ne le sait pas. Et question qui me paraît quand même surprenante et que je me pose, est-ce que c'est les trois évangélistes se connaissaient, se sont rencontrés?
Alors, je vais répondre à cette question tout de suite et après à l'autre
Oui.
sur le caractère de Marc, par
Oui,
exemple,
oui.
le caractère de l'évangile de Marc. Saint Irénée, qui a été évêque de Lyon entre 170 et 205, nous raconte dans le livre qu'il a écrit, qui s'appelle Contre les hérésies, que Matthieu a écrit pour les Hébreux et que Marc, qui était le secrétaire de Pierre, et Luc, le secrétaire de Paul, a écrit finalement quelque part de la part de Pierre et de Paul. Et donc il semblerait que peut-être, alors Matthieu était un juif, alors que Luc n'était pas un juif.
Les Grecs.
Et lui, qui était grec, lui donc accompagné Paul, on le voit surtout dans la fin de ses voyages. Et donc certainement, Luc et Matthieu n'ont pas été ensemble pour parler de tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se soient pas rencontrés quelque part.
Oui, oui.
Pierre et Paul étaient les deux grands piliers, on pourrait dire, du monde du chrétien de l'époque. Et donc, mais je pense que Pierre et Paul, Pierre ayant le ministère auprès des Juifs, hein, il avait les clés du royaume, Paul étant l'apôtre des nations, ils avaient des domaines d'investigation différents, et je pense qu'ils étaient dans des endroits différents. Pierre s'est trouvé rapidement à Rome, et était, on le voit dans le film Quo Vadis, hein, oui. Où il revient à Rome, en 64, et donc je pense que Paul a été à Rome emprisonné, entre 60 et 62, mais Pierre était à Rome alors que Paul était beaucoup plus en voyage. Et donc je pense qu'il y a certainement des correspondances, mais il y a aussi beaucoup d'éloignements, et il y a des ministères particuliers de chacun. Ce qui fait que Matthieu, Marc et Luc ont eu des ministères très particuliers. Matthieu écrit aux Juifs spécialement. Marc écrit plutôt de la part de Pierre toutes les actions de Jésus, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enseignement en parabole, à mon avis, ou peu.
Oui.
Et Luc écrit plutôt tout ce que Jésus a été en tant qu'homme, et c'est pour ça qu'on voit une description beaucoup plus longue, hein, Luc a 24 chapitres, alors que Marc n'en a que 16,
oui, oui.
Une description beaucoup plus longue de ce que peut être Jésus dans toute son humanité et dans tout son enseignement.
Et donc Matthieu est bien l'évangéliste pour les Juifs, puisqu'il ne parle jamais du royaume de Dieu, mais du royaume des cieux, parce qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu.
Absolument.
Voilà, oui, oui. Donc les sources, c'est effectivement ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont auprès de Paul ou de Pierre ou d'autres disciples, et c'était quand même très près de la source.
Oui.
Je ne sais pas s'ils ont entendu Jésus, mais ça se peut. Marc, par exemple, a pu entendre Jésus.
Alors, Marc...
C'est pas le jeune homme qui, au cours de la Passion, s'échappe
Certainement, parce que dans ce verset-là, ce verset-là n'apparaît que dans l'évangile de Marc, et il semble bien que ce soit Marc qui écrit de lui-même, justement. Oui, mais c'est pas certain, c'est une hypothèse qui est faite.
Oui, d'accord. Donc, est-ce que chacun a un thème particulier?
Alors oui, bien sûr. Hein. Donc, est-ce que chaque évangile a un thème particulier? Oui. Donc, l'évangile de Matthieu est un évangile construit sur 5 sermons, hein, et qui parle du royaume dans tout ce qu'il a de plus précis, alors que l'évangile de Marc parle des actions de Jésus, et l'évangile de Luc parle plutôt de l'humanité de Jésus. Oui. Bien sûr, l'évangile, donc, c'est la bonne nouvelle, mais l'évangile, Marc, par exemple, Matthieu et Marc parlent de l'évangile du royaume, donc la bonne nouvelle du fait que Jésus, qui est le Christ, vient pour régner. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Israël et pour les nations. Mais après, les chrétiens en ont donné un sens détourné, qui plutôt que l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus soit mort et ressuscité pour le salut de l'humanité.
Et on peut les classer, donc, disons, en plusieurs catégories. Il y a donc les paroles du royaume des cieux, hein, avec une écoute.
Parabole du royaume des cieux, oui.
Oui, la recherche et la croissance. Donc c'est le semeur, le trésor caché, la perle, la semence, le grain de sénévé, l'ivraie. Ça, c'est un paquet. Puis, il y a les paraboles de perte et de rédemption. C'est par exemple la brebis égarée, alors la drachme perdue, le fils prodigue qui revient. Une troisième catégorie.
Donc, l'évangile de Luc, chapitre 15.
Oui. Et ensuite, disons, une autre, c'est les paroles sur la prière. L'ami importun, le juge unique, le pharisien et le publicain. Bon, il y en a d'autres.
Hein,
il y en a d'autres. Et puis aussi des paroles eschatologiques, c'est-à-dire
pour la fin.
Pour la fin. Hein, l'économe qui est avisé, les 10 vierges. Les noces qui représentent chaque fois évidemment la passion et les retrouvailles avec l'agneau, le bon riche, les vignerons infidèles, le bon grain, l'ivraie, le filet, le figuier stérile, et ainsi de suite, et puis d'autres évidemment qui sont aussi importantes que j'ai mis sans titre, hein, c'est la maison à construire sur le roc. Qui demande de la réflexion, le Christ qui est la lumière du monde, il ne suffit pas de le mettre sous le boisseau, l'économe fidèle, et puis vous avez parlé du mauvais riche et Lazare qui est une, à mon avis, une parabole essentielle, et les talents et l'ouvrier de la 11e heure, vous en aviez parlé aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres, vous pensez, catégories, ou là, j'ai fait un catalogue?
Alors là, ça fait un bon catalogue, et on va parler de ça après la pause musicale.
Alors, nous reprenons et nous voyons les paraboles. On va commencer donc les paraboles du royaume des cieux.
Donc, les paraboles de Matthieu, hein, dans Matthieu, et notamment au chapitre 13, il y a 7 paraboles qui sont des paraboles du royaume. Et on va peut-être se demander tranquillement qu'est-ce que nous pouvons nous faire de ces paraboles, nous chrétiens, voilà, aujourd'hui. Alors, on pourrait dire par exemple que dans la parabole qui parle des terrains, Jésus va dire à ses disciples, il va leur expliquer ces paraboles, et il leur dit, Matthieu 13, verset 18, « Vous écoutez la parabole du semeur. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. » Et donc il dit, celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie, mais qui n'a pas de racine. Et donc, on va se dire, eh bien nous, tout simplement, il faut qu'on laboure notre terre. Il faut qu'on soit d'accord pour avoir une pensée malléable, ne pas avoir d'idées préconçues, être honnête devant Dieu, être sincère. Arrêter de se faire de se raconter des histoires du genre, bah écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça, on ne se refait pas, dans la famille, on a toujours été comme ça, vous savez, je suis colérique, je suis jaloux, je suis un peu paresseux, hein, je suis violent, ben bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, personne n'est parfait.
Hein, voilà. Ce catalogue.
Ça, c'est ça l'enseignement direct de cette parabole. Voilà. Est-ce qu'on dit qu'on est un terrain rocailleux? Hein, ou est-ce qu'on veut être une bonne terre? Est-ce qu'on veut entendre la parole de Dieu et la recevoir précautionneusement, et de ce fait se remettre en question? Ou au contraire, est-ce qu'on dit, ben, de toute façon, moi je suis comme ça. À ce compte-là, pour quelqu'un qui s'endurcit, eh bien, Dieu, je ne vais pas dire que pour Dieu il n'y a pas de solution, il y a toujours des solutions pour Dieu, mais Dieu ne force personne. Hein, voilà comment je comprends cette première parabole.
Cette première parabole, oui.
Une deuxième parabole, celle de l'ivraie. Eh bien, avec simplicité, on va comprendre que, voilà, il y a donc dans nos vies des choses bonnes, et quelque part, il y a des gens, peut-être notre conjoint, peut-être nos enfants, peut-être les gens de l'église qu'on fréquente, de la paroisse qu'on fréquente, des gens, des collègues de travail, alors ils sèment de mauvaises choses. Bon. Jésus dit, mais laisse tout ça pour la fin. Il dit, ne t'occupe pas de ce qui est mal semé, laisse-moi, en fait, je m'en occuperai, moi, au jugement dernier. Alors, nous, on se met un peu martel en tête. Nous, on voudrait que ces choses-là soient réglées. Nous, on voudrait que justice soit faite tout de suite. Mais Jésus nous dit, mais non, moi, je ne règle pas les choses tout de suite. Voyez, comme on est capable d'entretenir une impatience et après de dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis impatient. Et non, mais Jésus nous dit, mais non. Non, non, l'ivraie, ne t'en occupe pas. Et toi, fais ce que je te demande et tu verras, tout ira bien.
Quand j'y réfléchis, c'est quand même une bonne solution. C'est de faire confiance à Dieu et c'est lui qui réglera les problèmes. Ça nous dégage, ça nous
Ça nous
libère.
dégage. Et voilà.
Alors, ça, on n'y pense pas assez.
Voilà. Si on continue avec ces paroles, ces paraboles, alors il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. Et c'est ce grain de moutarde qui est une toute petite semence, produit un arbre, il y a des oiseaux, tous les oiseaux du ciel viennent dans ses branches. Eh bien, ça montre bien que nous, avec un tout petit quelque chose, avec juste de la foi, alors on transporte des montagnes. Et c'est très encourageant.
Oui, donc tout n'est pas réservé à ceux qui sont
Voilà.
les plus forts, physiquement, les plus forts intellectuellement, et ainsi de suite. Chacun a sa place et peut très bien, avec sa foi, se développer, arriver à quelque chose de magnifique.
On va peut-être pas voir toutes les paraboles de Matthieu 13, mais par exemple, on pourrait voir celle où il est dit, le royaume, verset 44, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme, après l'avoir trouvé et caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Alors je pense que ça nous stimule, nous, pour comprendre que dans tout ce qui touche à Dieu, il y a l'essentiel. Et il faudrait qu'on soit capable de tout vendre pour justement recevoir de la part de Dieu cet essentiel. Non pas qu'on achète ce que Dieu nous donne, mais qu'on se débarrasse, en fait, qu'on soit capable de le mettre à sa disposition et capable, finalement, de recevoir ce que Dieu veut nous donner.
Mais vous remarquez quand même qu'il vend tout pour acheter quand même le champ. Il ne vole pas le trésor.
C'est ça.
Parce que le champ étant à lui, il peut bénéficier du trésor. C'est quand même important.
C'est important, oui.
Parce qu'il pourrait prendre le trésor et partir. Oui.
Alors, si vous voulez, passons un petit peu aux paraboles de Luc, hein, qui sont différentes, qui
Ah oui, c'est
montre dans
la peau
Luc
de
au chapitre,
l'incarnation.
voilà, Luc chapitre 15. Donc on voit que le Seigneur Jésus est en face des foules et qu'il il a des gens qui sont prêts à l'écouter, des gens qui ont à entendre des choses importantes. Et il va leur dire pour les toucher, pour toucher, pour montrer comme ils sont peut-être à côté de l'essentiel. Et notamment, chapitre 15, verset 2, les pharisiens et les scribes murmuraient en disant que Jésus reçoit des pécheurs et mange avec eux. Parce que pharisien est un mot qui vient de Peretz, qui veut dire brèche. C'est intéressant, donc Peretz est un des deux fils de Judas, qui a Peretz et Zérakh, et Peretz veut dire brèche. Les pharisiens sont ces gens qui se séparent, qui mettent des brèches, qui mettent
Ah
des
oui.
espaces entre eux et les autres, parce qu'ils se séparent de ceux qu'ils considèrent comme n'étant pas assez purs pour être avec eux.
Ils écartent les
Ils
autres.
écartent les autres. Et donc Jésus leur dit trois choses, hein, mais il commence par leur dire cette parabole. Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis et en ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert et ne s'en aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et il va leur dire à la fin de la parabole, verset 7, je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors bien sûr, ne nous y trompons pas, tout le monde a besoin de repentance.
Je passe.
Mais Jésus insiste sur le fait d'avoir de la disponibilité pour la brebis égarée. Alors que là, manifestement, les pharisiens n'en ont aucune. Parce que pour les pharisiens, tout ce qui compte, c'est leur confort,
Être dans
la
les normes.
satisfaction qu'ils ont des normes qu'ils ont établies, mais qui ne sont pas forcément les normes de Dieu, bien sûr.
Alors, une remarque aussi, mais je crois qu'on peut y répondre rapidement. J'ai entendu dire, mais en fait, ce pasteur est un mauvais pasteur, parce qu'il en abandonne 99 pour aller chercher une qui s'est perdue. Mais je suppose que les 99, le pasteur sait qu'elles sont dans l'enclos et qu'elles sont protégées.
Absolument. Et je dirais même que peut-être que dans nos églises, ce n'est pas un rapport de 1 à 99 sur ceux qui sont dans l'enclos et ceux qui sont égarés.
Oui, je
Alors,
ne veux pas dire qu'on pourrait inverser, mais
voilà,
enfin.
hein. Et je pense qu'on devrait tous être des pasteurs, tous être des bergers, à être disponibles pour notre frère, pour notre sœur. J'aime bien ce temps où il y a les salutations, hein, ou dans le, à la messe, hein, au culte, on prend le temps de saluer celui qui est à notre droite ou à notre gauche, comme si on était disponible. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est exact, que du temps du temple Salomon, à la porte qui dans les actes est appelée la porte de la belle, en acte 3, alors si on rentrait par la droite de la porte, ça voulait dire qu'on allait bien, et si on rentrait par la gauche, ça voulait dire qu'on n'allait pas bien.
Ah bon?
C'est intéressant, ouais. Hein. Et l'escalier qui descendait au réservoir pour se laver les pieds, il était étroit en descendant et large en remontant, comme pour montrer que c'était difficile d'aller se laver les pieds,
oui.
Mais plus facile une fois qu'on avait les pieds lavés. Oui.
C'est un autre escalier, je suppose.
Oui, c'est
en
ça.
Face, ouais. Bien,
c'est les intéressant.
Pieds,
hein.
Oui. Oui, mais alors, quand vous preniez la mauvaise porte, tout le monde savait que ça n'allait pas, ou au contraire, ou que tout le monde savait que vous allez bien.
Et donc, c'était là pour peut-être inciter les gens
ah.
à aller vous voir quand vous n'alliez pas bien.
Oui, parce que je vois pas quel serait l'intérêt. Oui, effectivement. Hein. Oui, c'est pour que les autres se manifestent, oui.
Revenons aux paraboles de Luc. Et toujours à ces pharisiens, le Seigneur leur dit une deuxième parabole, puis une troisième. La parabole, c'est la deuxième, c'est celle de cette femme qui a perdu une drachme et qui va finalement allumer la lampe, balayer la maison, chercher avec diligence jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et donc, le Seigneur Jésus dit ces deux paraboles et conclut à chaque fois par « il y a plus de joie ». Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et donc, Jésus appelle les pharisiens à se repentir, bien sûr.
Mmh.
Et donc, pour nous, on pourrait garder de ces deux paraboles, la parabole de la brebis perdue comme la parabole de la drachme perdue, comme pour la parabole du fils perdu aussi,
oui,
hein, qui revient, le fait que c'est très important de se repentir. Et on voit dans cette troisième parabole comment ce fils se repent. On pourrait dire que la troisième parabole est beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe, et on voit une démarche en sept points qui montre comment est-ce que ce fils se perd, et ensuite une démarche en sept points qui montre comment est-ce que ce fils va se retrouver.
C'est une donc, parabole essentielle, je trouve.
Voilà, elle est très belle, elle est très touchante, avec la description du père qui regarde de loin,
qui
attend, qui... voilà, il y a Rembrandt qui a fait ce beau tableau, hein, avec ce père qui a une main de femme et une main d'homme, hein, et qui, avec ses clairs-obscurs, qui montre avec tous ces contrastes, comment est-ce que finalement Dieu attend celui qui se repent. Et ça doit beaucoup nous encourager, nous motiver pour revenir à Dieu finalement par la repentance.
Alors nous sommes toujours sur les paraboles et nous arrivons, disons, au chapitre, si vous voulez, des paraboles sur la prière.
Alors là, on peut prendre dans l'évangile selon Luc et peut-être décrire cette situation. Nous lisons au verset 1er du chapitre 11, comme Jésus était en prière, il arriva, quand il a eu fini de prier, que quelqu'un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et donc là, le Seigneur lui dit le Notre Père, hein, qui est repris plus longuement en Matthieu, mais il va leur dire au verset 5 « Qui sera celui qui, d'entre vous, ayant un ami, aille chez lui sur le minuit et lui dise « Ami, prête-moi trois pains » et que l'ami lui dise « Écoute, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants sont au lit et je ne peux me lever pour t'en donner. » Hein? C'est donc intéressant de voir comment le Seigneur utilise une petite histoire, hein, qui est très 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 simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette parabole? Peut-être simplement le fait que Dieu se présente ici comme un vrai père, comme quelqu'un qui a besoin d'entendre le besoin de ses enfants, quelqu'un qui a besoin d'entendre ses enfants considérer le Père comme celui qui est comment dire, celui qui donne sans mesure, qui est la source, hein, comme vous le dites, de toute chose, et donc qui n'est pas importunable. Dieu n'est pas dérangeable. Dieu peut être consulté jour et nuit. Dieu est celui qui n'est pas comme l'ami, justement, qui va lui dire « Je suis au lit, mes enfants sont au lit, ma porte est fermée. » Voilà, pour Dieu, il n'y a pas finalement d'éléments qui puissent l'empêcher quelque part de nous répondre. Alors, qu'est-ce que veut dire cette parabole, hein, donc, cette histoire qu'il lançait à côté? Je crois qu'elle peut quand même dire que nous pourrions penser que Dieu est comme ça. Et si nous pensons que Dieu n'est pas importunable, alors, quelque part, on ne va pas le prier. Quelque part, quand on va le prier, on va se dire, mais est-ce que ça sert à quelque chose que je prie Dieu? Est-ce que ça sert à quelque chose que je me mette, que je passe du temps à faire ça?
Oui, on ne va pas insister.
Non, on ne va pas insister. Par ailleurs, les disciples disent, enseigne-nous à prier. On pourrait dire que la réponse de Jésus est stupéfiante de simplicité. Donne-moi du pain. Est-ce qu'on a besoin d'être enseigné à prier pour dire à Dieu, donne-moi du pain? Pour dire à Dieu, j'ai besoin de pain, j'ai besoin d'être en bonne santé, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de pardonner, j'ai besoin d'aimer. Et donc, là, il y a une grande simplicité dans la réponse de Jésus, notamment au verset 9, « Moi, je vous dis, demandez, et il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, heurtez, il vous sera ouvert, car quiconque demande, reçoit. » C'est très intéressant d'entendre Jésus donc dire avec des expressions très simples, répondre très gentiment, finalement, à ses disciples qui lui demandent des choses compliquées, il leur répond des choses très simples. Cet enseignement est un enseignement sur la prière, et là, on peut, nous, chrétiens, recevoir un enseignement sur la prière qui est absolument simple, clair, et quelque part, on ne peut pas dire qu'on n'a pas compris. Hein, de la même manière que tout à l'heure, on parlait dans le même évangile de l'enseignement sur la richesse, hein, ou de l'enseignement sur la manière de se tenir quand on est invité,
oui,
en ne prenant pas la première place.
Oui. Donc là, il suffit donc d'avoir la foi, en fait, de toujours savoir insister, reconnaître Dieu comme Père, qui va accorder de toute façon ce qu'on lui demande.
Voilà,
très simplement.
On peut dire que cette histoire montre que quelque part, Jésus voudrait que ses disciples retiennent l'image, retiennent quelque part l'absurdité avec l'image. On est plus peut-être, il y a un retentissement plus grand,
oui.
L'image est plus en percussion, alors que s'il leur avait dit simplement, mais demandez ce qu'il faut à Dieu, ils n'auraient peut-être pas été interpellés comme... finalement, Jésus interpelle en disant, mais cet ami va pas dire, je suis couché, mes enfants sont couchés, je ne peux pas me lever, tu m'importunes.
Je ne peux pas me lever parce qu'il ne veut pas, à mon avis, déranger ses enfants. On peut supposer qu'ils dorment tous dans la même pièce.
Et oui, c'est ça, oui.
Donc, il ne veut pas déranger ses enfants, il a autre chose à faire aussi.
Voilà.
Bon, puis enfin, se termine autrement. Alors, vous avez une autre, peut-être, dans les paraboles eschatologiques. Pouvez-vous nous parler peut-être des dix vierges?
Oui, alors c'est important de parler des dix vierges, donc cette parabole de Matthieu 25, dans le premier paragraphe, parce que je crois que, comme vous le dites, c'est une parabole eschatologique, c'est-à-dire qui s'occupe des temps de la fin, qui concerne les temps de la fin, et qui n'est pas à prendre n'importe comment. C'est difficile d'avoir un sens très concret pour nous, chrétiens qui vivons maintenant, quand on lit cette parabole. Alors, j'ai devant les yeux Matthieu 25, versets 1 à 13, et il y a donc 10 personnes, 10 femmes, hein, qui sont des femmes qui attendent un mariage, qui attendent un époux, et qui ont des lampes. Et donc, en ce temps-là, les lampes fonctionnaient avec de l'huile, et donc elles avaient de l'huile, et la nuit a été longue, celles qui étaient folles, n'ont pas pris plus d'huile avec elles, donc leurs lampes fonctionnaient, mais...
qui n'étaient pas censées.
Pas censées, oui. Qui n'étaient pas prévoyantes, pourrait dire, aujourd'hui.
Qui n'étaient pas prévoyantes.
Voilà, et donc elles prennent de l'huile, mais pas assez d'huile pour attendre l'époux qui va venir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ces paraboles? Nous, en tant que chrétiens, on va dire, alors, l'huile, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. On va dire, le fait que l'époux vienne, c'est le symbole du retour de Jésus. Et donc, quand Jésus va revenir, peut-être que je vais manquer d'huile et que je vais me retrouver en enfer.
Eh.
Alors, la grande question, c'est que dans les évangiles, il est clair que les choses se passent bien avant que la Pentecôte ne survienne et que l'Esprit de Dieu soit donné aux chrétiens.
Oui.
Dans les évangiles, Jésus n'est pas encore mort, Jésus n'est pas encore ressuscité. Donc il est absolument clair que Jésus ne parle pas de notre rapport à l'Esprit que nous avons, nous, chrétiens, maintenant, une fois que la Pentecôte a eu lieu. À la Pentecôte, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, nous lisons à l'égard de l'Esprit que nous avons été scellés de l'Esprit de Dieu parce que nous avons cru. Et à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vient sur ceux qui ont cru, et ceux qui ont cru deviennent l'habitation de Dieu par l'Esprit, comme dit Éphésiens, chapitre 2, verset 22. Donc nous n'avons pas le même rapport à l'Esprit de Dieu qu'avaient ces gens-là à l'époque. Donc nous ne pouvons pas interpréter cette parabole pour nous de manière directe. Nous sommes obligés, tenus, de l'interpréter, comme vous le dites, de manière eschatologique. C'est-à-dire que quand Jésus reviendra pour régner comme roi sur Israël, alors il reviendra avec l'Église. Alors on ne va pas développer ce côté eschatologique dans cet enregistrement, qui est un enregistrement sur les paraboles. Mais on va quand même souligner le fait que, selon 2 Thessaloniciens 2, alors quand ce qui retient ne retiendra plus, c'est-à-dire que quand l'Église ira à la rencontre de Jésus dans les airs, alors sera révélé l'Antichrist qui aura quelque part, qui sera le roi qui répondra aux attentes de ceux qui n'ont rien à faire avec Dieu, et que pendant 3 ans et demi, il y aura un temps très difficile, à la fois pour ceux qui n'ont rien à faire avec Dieu, parce qu'il y aura énormément de pollution, de problèmes écologiques, il y aura une manifestation démoniaque de manière générale, et ça aura lieu jusqu'à Armageddon, la dernière guerre mondiale, moment pendant lequel Christ reviendra, et à ce moment-là, le Christ dit, mais quand le Christ reviendra, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai de la foi sur la terre? Et là, on voit ces gens-là du peuple d'Israël qui n'auront pas d'huile dans leur lampe. Et on comprend que le Christ dira à ces gens-là, eh bien, vous n'avez pas d'huile dans vos lampes, alors retirez-vous, je n'ai rien à faire avec vous. Je ne vous connais pas. Et donc là, on ne peut pas donner tellement d'interprétation à cette parabole pour des chrétiens. Et il faut faire très attention quand on lit l'Évangile à ce que ces paraboles-là ne soient pas eschatologiques et quand on n'en fasse pas des mauvaises interprétations du genre, eh bien, voilà, c'est clair que les chrétiens peuvent perdre le salut et qu'il faut qu'ils fassent attention à toujours avoir de l'huile. Et l'huile, ben, il faut l'acheter.
Mais oui, parce qu'en fait, souvent, dans cette parabole, on est très dur vis-à-vis des vierges qui... D'ailleurs, déjà dans le titre, on les désigne comme les vierges folles.
Elles sont folles.
Elles sont folles. Bon, c'est pas vrai, en fait, quand elles sont inconscientes. Bon, peut-être, mais on est très dur, on les condamne. Mais il leur manquait peut-être quelque chose pour comprendre.
Absolument.
Là. Donc, pour nous, c'est différent. Pour nous, si on n'a pas d'huile, alors là, évidemment, on est condamnable. Parce que nous, on comprend maintenant qu'il y a un retour de l'époux qui doit venir.
Et pour nous, dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est-à-dire que, bien que nous ayant été scellés, appartenant définitivement à Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, et nous ne pouvons pas perdre ce privilège, mais nous pouvons attrister l'Esprit, et c'est vrai que c'est mauvais à la fois pour le temps présent, parce que finalement, quand on attriste l'esprit, on s'attriste également soi, oui. Mais c'est mauvais pour le temps à venir, dans le royaume, quand Jésus-Christ jugera toutes choses, comme on l'a vu dans un autre enregistrement.
Alors, disons, pour conclure, il faudrait peut-être parler de la maison sur le roc.
La maison sur le roc, voilà. Hein, parabole de Matthieu 7, dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne, hein, dans cette parabole où... on a une parole de Jésus qui est un peu qui pourrait être perçue comme difficile à comprendre, hein, où il nous parle de bâtir la maison sur le roc ou sur le sable. Et, je sais pas, vous connaissez beaucoup de personnes qui ont bâti leur maison sur le sable, vous?
Je crois pas.
C'est vrai que
Physiquement, matériellement, je pense
matériellement,
pas, mais bon,
hein?
dans un autre domaine, peut-être.
Voilà, ouais. Et donc, c'est intéressant de voir cette parabole qui pourrait peut-être être pour nous une conclusion sur l'enseignement général des paraboles. Si on lit Matthieu 7 avec soin, on va voir que le Seigneur Jésus commence ses dernières paraboles au verset 24 en disant: Quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Donc, et il va dire: Quiconque entend ces paroles et les met en pratique. Donc, il dit: Celui qui les met en pratique, il bâtit ses maisons sur le roc. Celui qui ne les met pas en pratique, il bâtit sa maison sur le sable. On pourrait dire que nous, en tant que chrétiens, quand on ne fait pas ce que nous savons, quand on n'est pas conséquent, qu'on n'est pas sincère, qu'on n'est pas sage, qu'on agit volontairement dans quelque chose dont on sait que ça nous fait du mal, alors on bâtit notre maison sur le sable. Quand, du point de vue personnel, du point de vue professionnel, du point de vue relationnel, du point de vue ecclésiastique, du point de vue de la santé, quand on ne tient pas compte de tout ce que Dieu nous propose de faire, alors on n'est pas un homme prudent. Ça nous interpelle quand même beaucoup. Chaque fois que on peut dire, on sait par exemple qu'il faut qu'on se lave les dents, on sait qu'il faut qu'on dorme la nuit, autant qu'on puisse le faire. On sait que il faut que on respecte son prochain. Le commandement évangélique, c'est aime ton prochain comme toi-même. On sait que il faut être honnête, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir. On sait qu'il ne faut pas tromper son conjoint. Toutes ces choses-là, on les sait. Et donc, quiconque entend ces miennes paroles et les met en pratique, alors on bâtit notre maison sur le roc. Le fait de bâtir notre maison, c'est quelque chose d'assez long. On pourrait dire qu'on a toute la vie pour bâtir la maison.
C'est pierre par pierre.
C'est pierre par pierre. Et donc, on peut dire que c'est pas très grave de mettre une mauvaise pierre. Mais quand on continue à mettre des mauvaises pierres, alors là, la maison peut s'écrouler. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons qui s'écroulent. Beaucoup de couples qui divorcent. Beaucoup d'enfants qui désobéissent à leurs parents. Beaucoup de licenciements dans le travail. Beaucoup de catastrophes dans les églises et de choses qui sont dues parce que on ne met pas en pratique la parole de Jésus. Mais la parole de Jésus, comment est-ce que on fait pour se l'approprier? Est-ce que on prend la peine de l'écouter un petit peu tous les jours? Est-ce qu'on prend la peine de la garder? Est-ce qu'on prend la peine de se l'approprier, c'est-à-dire de la comprendre? Est-ce qu'on prend la peine de la mettre en pratique et de surveiller qu'on la met bien en pratique? Je crois qu'au contraire, très très souvent, nous sommes, nous, négligents. Comme dit l'apôtre Jacques, on entend la parole qui a la puissance de nous sauver, mais on s'en va ayant aussitôt oublié ce que le miroir de la parole nous donne de nous-mêmes. C'est quand même dommage. Donc,
Mais fréquent, je
mais
pense.
fréquent. Et donc,
Oui, mais.
c'est ça, hein? On a intérêt à donner à l'enseignement de Jésus autant d'intérêt que celui qu'on donne à l'enseignement qu'on a dans les études pour réussir un examen, ou à l'enseignement que le patron nous donne pour faire telle ou telle chose, par exemple. Et c'est absolument clair que si on ne donne pas cet intérêt, alors certainement, on ira vers des échecs. Les paraboles de Jésus sont des écrits importants, et on pourrait dire par exemple que dans les derniers écrits de l'apôtre Paul, hein, je pense à 1 Timothée 6, qu'il a écrit dans les années 60 à 62, alors que bon, il n'était pas encore vraiment à la fin. 2 Timothée, c'est sa dernière lettre. Mais dans 1 Timothée, il lui dit au chapitre 6 et au verset 2, à la fin du verset, enseigne ces choses, exhorte. Et il dit, si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien.
Ouais.
Donc se ranger aux paroles de Jésus-Christ. Intéressant, hein? Mais avant lui, le Seigneur Jésus avait dit, en Matthieu 28, quelque chose qui interpelle vraiment, qui m'interpelle et qui devrait interpeller tout le monde. Alors nous lisons en Matthieu 28, Jésus leur dit, donc à ses disciples, verset 19, « Allez, faites disciples les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder toutes les choses que moi, je vous ai commandées. » Donc à nous d'être très attentifs sur les paroles du Seigneur Jésus dans les évangiles. Les paroles, les paraboles. Et on pourrait dire que c'est vrai que l'évangile est lu à l'Église. On pourrait dire que on attache de l'importance aux paroles du Seigneur Jésus. Mais quand même que très souvent, on les écoute, mais on ne se donne pas les moyens de les comprendre. Alors qu'on devrait quand même vraiment le faire.
Ben oui, ça devrait être l'essentiel pour chaque chrétien. De se l'approprier, de le faire sien et de l'appliquer aussi. Parce qu'en général, c'est pour soi, mais aussi c'est une invitation d'ouverture aux autres. Dans toutes les paraboles en général, il y a quand même ce message.
Pour conclure, je voudrais dire que l'enseignement des paraboles est donc l'enseignement qui est jeté à côté d'un enseignement. Jésus enseigne, mais Jésus va utiliser des paraboles à côté pour être percusif, pour être convaincant, pour laisser une image qui puisse vraiment parler. Eh bien, ce qui est lancé à côté est aussi important, et nous pourrions, nous, garder ces images, et par exemple, un peu faire la liste des paraboles, comme vous l'avez faite, hein, combien il y en a, 75, vous dites? Quelque chose comme ça.
65.
65. Et donc faire la liste de ces paraboles et peut-être en faire un cap pour 65. Ça peut être, je ne sais pas, il y a 52 semaines par an. Oui. On pourrait presque en faire une par an.
Oui.
Hein? Avoir un cap. Alors dans cette semaine, je vais moi avoir cette parabole en mémoire et garder quelque chose d'important pour moi, pour la semaine.
Hein, voilà, c'est une par semaine.
Une par semaine.
Oui, d'accord. Ça pourrait être bien. Mais il y en a qui sont en double, donc les 65, ce n'est pas gênant.
Eh bien voilà, très très bien. Donc, bon courage et bon travail pour ceux qui voudront
mais tout le monde va s'y mettre.
Ce programme. Thank you.